Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 19 avril et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'écho.
L'administration wallonne est souvent pointée du doigt pour sa complexité. Aujourd'hui, elle tente de répondre aux critiques avec une nouvelle procédure qui encadre les projets d'investissement des entreprises stratégiques. Chez Total Energy, 19 actionnaires se sont alliés pour demander la scission du rôle de président-directeur général à la tête du géant pétrolier français. En gros, ils veulent séparer le P du DG de la fonction bien française de PDG. Lors d'un conseil européen extraordinaire à Bruxelles ce jeudi, les 27 ont cherché à esquisser les contours d'une vaste réforme pour remettre l'économie européenne en selle, et ce n'est visiblement pas si simple. Je suis Ondine Moeres et vous écoutez Le Brief.
Le Brief, cette info dès 7h.
Simplifier. La simplification, c'est l'une des principales demandes des entreprises à l'égard des administrations wallonnes. Eh bien, elle semble avoir été entendue. Une nouvelle procédure transversale va être testée au sein de plusieurs administrations et organismes publics pour les rendre plus entreprise-friendly. On parle notamment du Forum, de Wallonie Entreprendre ou encore de l'AWEX. L'idée, c'est de mettre en place une procédure nommée Fast Track. Elle serait commune à toutes les administrations wallonnes en contact avec les entreprises pour leurs projets les plus stratégiques. Dans un premier temps, la procédure s'adressera aux grands investisseurs. La suite, c'est François-Xavier Lefebvre qui vous la raconte.
Il y a une phase pilote qui va être lancée ici à partir du mois de juin. L'administration va sélectionner une série de grands investisseurs. C'est des projets qui vont générer une vingtaine d'emplois. On parle d'un investissement de l'ordre de 10 millions au minimum, avec des projets qui demandent une mobilisation de plusieurs services de l'administration. Et l'objectif, c'est vraiment de tester l'administration, voir un peu comment elle arrive à communiquer d'un service à l'autre sans que le dossier se perde en chemin. D'ici juin 2025, on devrait avoir les conclusions. Et forcément, tout projet comme ça doit être généralisé à tous les investisseurs, qu'ils soient petits et grands. Mais le projet est bien plus large, parce qu'en amont du projet pilote, il était décidé d'envoyer une série de fonctionnaires en entreprise. En fait, c'est vraiment les confronter à la réalité du terrain. En fait, c'est leur ouvrir les yeux sur une certaine réalité que parfois ils oublient.
En effet, plusieurs fonctionnaires du SPW, mais aussi du Forum ou encore de Wallonie Entreprendre, vont être envoyés en stage en entreprise pour les confronter à la réalité du terrain. Netflix est en pleine forme. Les résultats du géant du streaming pour le premier trimestre ont écrasé les attentes des analystes. La plateforme a notamment réussi à attirer plus de 9 millions d'abonnés supplémentaires. C'est presque deux fois plus qu'espéré. C'est son meilleur début d'année en fait depuis 2020. Le groupe a aussi surpris positivement au niveau de son bénéfice et de son chiffre d'affaires, qui a bondi de près de 15% pour atteindre 9,4 milliards de dollars. Mais malgré ces résultats largement supérieurs à ce qu'on pouvait attendre, la réaction des marchés était plutôt tiède. Netflix chutait dans les échanges d'après-bourse. La société a notamment dévoilé qu'elle arrêterait désormais de publier le nombre de ses abonnés, ce qui a pu refroidir les marchés. Nouvelle fronde d'actionnaires chez Total Energy. Le pétrolier français est plutôt coutumier des critiques. Elles émanent le plus souvent d'ONG, de défenseurs de l'environnement, mais elles viennent aussi de ses propres actionnaires parfois. Dernier exemple en date, un groupe de 19 actionnaires veut mettre fin au cumul des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général. La fonction de PDG donc, qui est actuellement occupée par Patrick Pouyanné. Parmi les 19 signataires de la motion qui sera proposée aux actionnaires à la prochaine AG, on trouve le fonds Candriam ou encore De Groof Petercam. Ensemble, ils représentent tout de même 0,62% du capital de Total. On dirait pas, mais ça fait quand même 20 millions d'actions et ce n'est pas rien. Alors, quel est l'objectif de cette motion? J'ai posé la question à Ophélie Mortier, responsable des investissements durables chez De Groof Petercam Asset Management.
La bonne pratique veut qu'il y ait une séparation des pouvoirs pour avoir un challenging des décisions et des exécutions des décisions. Et ici, il y a en effet un double objectif, puisque on veut aussi avoir cette résolution par rapport au climat. Il y a déjà eu pas mal de résolutions d'actionnaires sur le sujet. Donc avec le meilleur équilibre des pouvoirs, on devrait avoir aussi un conseil d'administration qui soit plus à même de challenger les enjeux climatiques et la transition.
Reste à savoir si cette motion, elle a seulement une chance d'aboutir.
Il y a 2 ans, Total Energy avait refusé de déposer une résolution d'actionnaire sur un sujet similaire. Ça lui a fait une très mauvaise presse. A priori, on s'attend à ce qu'elle soit déposée et qu'on la retrouve à l'agenda de l'Assemblée générale des actionnaires. Une fois qu'elle sera à l'agenda de l'Assemblée des actionnaires, il y aura donc un vote. C'est un vote consultatif, donc l'entreprise n'est pas obligée de la suivre. Mais c'est aussi ce qui est voulu par cette résolution de séparation des pouvoirs, c'est d'avoir ce conseil d'administration plus indépendant et plus amène de regarder les enjeux des actionnaires. Et les enjeux des actionnaires sont exprimés par cette résolution.
Après ASML mercredi, c'est un autre géant de l'industrie des semi-conducteurs qui donnait ses résultats hier, le Taïwanais TSMC. Le plus grand producteur mondial de semi-conducteurs a frappé fort au premier trimestre de 2024. Son chiffre d'affaires a augmenté de plus de 16% à près de 19 milliards de dollars. Des résultats supérieurs aux attentes grâce au développement de l'intelligence artificielle évidemment. Mais ces résultats flamboyants n'ont pas eu d'effet sur l'ensemble du secteur en bourse. Les marchés digéraient encore la claque subie par le géant ASML mercredi et les bonnes nouvelles de TSMC n'ont visiblement pas suffi à rassurer. Le Taïwanais a chuté hier de quasiment 5% en bourse. Hier à Wall Street, l'ensemble du secteur des semi-conducteurs restait négatif et globalement, Wall Street clôturait en ordre dispersé, tandis que la bourse de Tokyo repartait nettement dans le rouge aujourd'hui. L'indice Nikkei affichait moins 3% à l'ouverture. Hier à Bruxelles, un conseil européen extraordinaire a donné la première impulsion à un nouveau pacte de compétitivité européen. L'ancien premier ministre italien Enrico Letta a remis son rapport sur l'état du marché unique et le constat est sans appel. L'économie européenne décroche face à ses grands concurrents, notamment les États-Unis et la Chine. Pour tenter d'atténuer les effets néfastes du marché unique et relancer la compétitivité de l'Europe, l'État appelle à intégrer 3 grands secteurs que les États membres se gardaient jalousement jusqu'ici, la finance, l'énergie et les télécoms. Et sur le plan financier, le rapport plaide pour une union de l'épargne et des investissements. L'épargne des Européens sert trop peu les intérêts stratégiques de l'Union quand elle ne les dessert pas. Écoutez le Premier ministre Alexander De Croo sur le sujet.
L'élément le plus important pour moi est de créer une union de l'épargne et de l'investissement. Le continent dispose de beaucoup d'épargne. Ces épargnants cherchent à obtenir un rendement, mais une très grande partie de cette épargne quitte l'Union vers les États-Unis dans des fonds d'investissement qui viennent ensuite ici pour racheter nos startups. Il s'agit en fait d'utiliser l'argent européen et de s'assurer que l'argent de nos épargnants est utilisé pour réaliser la transition verte et l'innovation. Ce serait une bonne chose pour nos startups et nos épargnants en tireront également un meilleur rendement. C'est ce qu'ils cherchent.
Les principes sont acquis, mais la mise en pratique ne sera pas simple. Certains pays plaident pour centraliser la supervision, d'autres craignent que ça draine les activités des banques d'investissement vers les grands États. L'harmonisation des règles de faillite reste aussi un nœud, sans parler de l'harmonisation des législations en matière de fiscalité des entreprises. Le projet d'union des marchés de capitaux remonte ainsi au sommet de l'agenda européen, mais il n'est pas encore pour demain. Le plan cafétéria, c'est un peu le self-service des ressources humaines, une sorte de bar à salade des avantages en nature qu'on pioche pour compléter son salaire. Cette facilité existe depuis pas mal d'années maintenant dans les entreprises, mais ce sont les solutions liées à la mobilité qui ont réellement fait exploser son utilisation par les employés. Selon les chiffres de SD Works, près de 80% des employés qui y ont accès en profitent aujourd'hui. Et dans la palette des offres, le vélo connaît un succès croissant. Plus d'un travailleur sur 10 renonce désormais à sa voiture pour la remplacer par un 2 roues et autant opte pour une combinaison voiture-vélo. Dans le top 3 des avantages les plus demandés, on retrouve le remboursement de l'épargne-pension, l'achat de jours de congés supplémentaires et les achats multimédia type smartphone, PC, etc. C'est l'éternel paradoxe de l'œuf et de la poule. Faut-il investir dans l'infrastructure de transport de l'hydrogène alors que la demande n'existe pas encore ou attendre que la demande soit suffisante pour développer le réseau ? Même si l'opérateur Fluxys attend toujours l'aval du gouvernement, il prépare déjà les prémices de son réseau de transport entre Anvers, Gand et la frontière néerlandaise d'une part, et à l'est de Liège d'autre part. D'ici 2026, ce seront les premiers maillons d'un ensemble qui doit faire de la Belgique une plaque tournante de l'hydrogène vert ou à bas carbone. Mais les projets de terminaux d'hydrogène se développent aussi dans les ports essentiellement. Anvers, Zeebruges ou Gand travaillent d'arrache-pied pour devenir des portes d'entrée de la molécule en Belgique et en Europe. C'est un marché qui s'annonce énorme, mais qui comporte encore beaucoup de zones d'ombre, notamment sur le rôle que devra jouer Fluxys. Maxime Van de Weyer.
Alors c'est précisément la question aujourd'hui qui fait un petit peu de bruit dans les coulisses. Donc Fluxys, on le sait, est opérateur du réseau de gaz déjà, mais aussi du terminal de gaz naturel liquéfié à Zeebruges, et estime finalement que pour l'hydrogène, un business model similaire ferait sens, sauf que la législation elle est balbutiante à ce stade. L'Europe et la Belgique n'ont pas la même interprétation d'un terminal d'hydrogène. Alors, une question qui fait aussi un petit peu débat, hein, c'est de savoir dans quelle mesure Fluxys a besoin des terminaux pour que l'ensemble de son projet de réseau soit rentable. Pour l'instant, Fluxys a un plan pour une première phase qui ne couvre que très peu le sud du pays, qui ne couvre pas Bruxelles. Et pour la suite, eh bien, Fluxys dit devoir attendre d'être certain de la rentabilité du projet dans l'ensemble. Et donc, la question est un peu de savoir, pour être certain de cette rentabilité, Fluxys a-t-il besoin d'un monopole régulé sur les terminaux d'hydrogène, comme c'est le cas pour le GNL?
Et tant qu'on est dans le volet énergie, côté nucléaire, hier soir, la Chambre a bien approuvé la prolongation de 10 ans des réacteurs Tihange 3 et Doel 4, comme attendu. C'est la fin de ce brief et n'oubliez pas de voter pour nous au Belgian Podcast Awards. Ça se fait en ligne, en quelques secondes, et ça nous aide beaucoup. Je vous glisse le lien dans les notes de l'épisode. Merci à Laurent Fabry qui a préparé ce dernier brief de la semaine. Passez un très très bon week-end. Salut !